Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marie-Béatrice Lahorgue.
Chers auditeurs et auditrices de Canal Académie, bonjour. Nous sommes aujourd'hui présents pour évoquer le Conseil constitutionnel en 2010, architecte du droit. Nous sommes en fait sur le second volet qui traite de cette institution en présence de notre invité Renaud Denoit de Saint-Marc. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, chère madame.
Nous allons aujourd'hui, à la suite de notre première émission qui traitait du Conseil constitutionnel, si je puis dire, dans sa dimension et perspective historique, nous allons aujourd'hui revenir davantage sur le Conseil constitutionnel aujourd'hui, en 2010 ou en 2009 en tout cas, le Conseil constitutionnel depuis la révision des institutions de juillet 2008, ce que j'ai appelé personnellement le Conseil constitutionnel architecte du droit, voire même, alors je sais que vous n'aimez pas trop, vous venez de me dire juste avant de cette émission que vous n'aimiez pas trop la publicité, cependant il faut bien reconnaître que le Conseil constitutionnel est depuis quand même quelques mois sous les feux de la rampe. En particulier, sous forme un peu provocatrice, j'ai envie de vous dire, de Copenhague à la rue Montpensier, nous venons d'assister à moult débats politiques, journalistiques, juridiques, nettement moins, autour de la fameuse décision taxe carbone. Pour prendre un raccourci qui ne vous plaira sans doute pas, parce qu'en réalité, cette décision de taxe carbone dont tout le monde a parlé visait la loi de finances 2010 et intéressait beaucoup d'autres points que celui de la taxe carbone. Ceci dit, effectivement, beaucoup de commentateurs, y compris dans certaines revues juridiques, hein, j'ai ici par exemple sous les yeux la revue Droit de l'environnement de février-mars 2010, qui mentionne que le Conseil constitutionnel fait primer le droit plutôt que d'adopter le credo libéral selon lequel, effectivement, il ne faudrait pas contrarier l'expansionnisme des entreprises par l'instauration d'une nouvelle contribution. Tout est dans le message, finalement, de cette décision qui nous dit quoi, finalement ? Qui nous dit que près de 50 ans après son institution, le Conseil constitutionnel a parfaitement réussi son implantation dans le paysage juridique, et ce, malgré l'hostilité et les critiques rencontrées initialement quant à son rôle.
Oui. Alors, vous avez employé l'expression d'architecte du droit. Moi, j'emploierais pour reprendre une analogie avec le domaine de la construction, non pas celui d'architecte, mais simplement de bureau de vérification.
Oui, c'est moi.
Hein, le Conseil ne conçoit pas l'architecture générale des projets du gouvernement. On lui laisse, et du Parlement, on laisse à ces deux instances l'intégralité de leurs responsabilités. Mais de même qu'il y a un bureau de vérification qui passe le plus souvent après que le bâtiment ait été bâti, eh bien le Conseil constitutionnel, c'est un peu le bureau veritas, le bureau veritas de la construction. Et il vient voir si tout de même la loi est bien conforme aux principes constitutionnels. Donc vous voyez, je suis plus modeste que vous en ce qui concerne le rôle du Conseil constitutionnel. Mais il est vrai que depuis la décision de 1971, depuis la réforme de 1974, le Conseil constitutionnel est le plus souvent saisi des problèmes les plus difficiles qui ont opposé, quelquefois de façon assez virulente, la majorité et l'opposition devant le Parlement. Mais il n'est pas l'architecte du droit, de toute façon, n'est-ce pas, ce rôle de vérification auquel je faisais référence tout à l'heure, eh bien, le juge judiciaire le fait dans le domaine de la procédure pénale et des atteintes à la liberté individuelle. Le juge administratif le fait à l'égard de toutes les autorités administratives de France et de Navarre. Et le Conseil constitutionnel le fait à l'égard de la loi et de la loi seulement. Voilà, donc je voudrais donner une image un peu plus modeste, un peu plus réservée du rôle du Conseil constitutionnel. Mais il est vrai que lorsque une réforme législative a passionné l'opinion, en tout cas a donné lieu à des vifs débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que le Conseil constitutionnel en est saisi, il est, qu'il le veuille ou non, et je crois qu'il ne le souhaite pas lui-même, il est sous les feux de la rampe, et cela a été vrai avec la loi de finances pour 2010 à propos de la contribution carbone, puisque contribution, il y a. Ce n'était pas la partie la plus importante
oui, tout à fait,
de la
absolument.
Loi de finances
oui,
pour
c'est
2010.
Ce que j'ai tenu à préciser.
Il y avait dans cette loi de finances extrêmement lourde, complexe, toute la réforme de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe professionnelle par les nouvelles impositions était infiniment plus compliqué à examiner que la contribution carbone. Alors la contribution carbone, effectivement, le Conseil constitutionnel a prononcé sa censure totale. Il ne l'a pas prononcée au nom de présupposés extraordinaires. Il n'est pas allé chercher dans la charte de l'environnement ou dans d'autres dispositions, dans d'autres grands textes, des dispositions qui l'ont amené à censurer. Il l'a censuré sur le terrain du principe d'égalité, qui était le principe le plus irrécusable de notre ordre juridique. Le principe d'égalité, c'est certainement le principe auquel les Français sont le plus attachés.
En particulier, le principe d'égalité devant les charges publiques, en l'espèce.
Et le principe d'égalité prend toute sa valeur lorsqu'il s'agit des charges publiques. Et il est apparu au Conseil constitutionnel que cette contribution, qui se voulait extrêmement générale, comportait, si j'ose dire, des trous béants. Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne pouvait pas laisser passer cette contribution carbone. Et il l'a fait en exerçant ses responsabilités. À chacun ses responsabilités. Au gouvernement de présenter un projet de loi, au Parlement de le voter, au Conseil constitutionnel, s'il en est saisi, de dire s'il est conforme aux principes constitutionnels. Alors le Conseil constitutionnel a dit non. Cette décision, à ma grande surprise d'ailleurs, a surpris les autorités exécutives oui. et législatives. Je pensais personnellement que au moins les autorités gouvernementales devaient avoir un certain doute sur l'orthodoxie de cette disposition fiscale, au moins telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et dont le Conseil constitutionnel a été saisi, mais c'est vrai. Contre son gré, le Conseil constitutionnel a été à cette occasion-là placé un peu au premier rang de l'actualité, que les journaux télévisés, paraît-il, parce que moi je ne regarde pas beaucoup la télévision le soir, la télévision, on a beaucoup parlé.
Clairement. Je confirme. Je pense que nos auditeurs pourront confirmer aussi. Très intéressant, en revanche, néanmoins, à partir de cette décision taxe carbone, de revenir sur l'évolution des missions du Conseil constitutionnel, parce qu'on peut, à l'éclairage des jurisprudences récentes du Conseil constitutionnel, constater néanmoins, si l'on reprend ce que nous nous étions dit lors de notre premier rendez-vous, qu'en réalité, les missions dites accessoires en interprétation ou en révision constitutionnelle de l'institution sont aujourd'hui finalement devenues ses missions principales. Alors certes, dans la taxe carbone, vous ne fondez pas cette décision principalement sur la charte de l'environnement, vous en rappelez simplement sa portée constitutionnelle. En revanche, si on reprend d'autres décisions telles que la décision OGM en particulier, là vous faites véritablement œuvre, ce que j'appelais d'architecte du droit, en tout cas œuvre d'interprétation fondamentale, puisqu'en réalité cet éclairage que vous portez dans la décision OGM sur la charte de l'environnement a permis par exemple au Conseil d'État, dans une jurisprudence qui est immédiatement postérieure, d'affirmer lui aussi, en conformité avec votre jurisprudence, la portée constitutionnelle de la charte. Alors qu'en est-il justement de cette charte de l'environnement, de sa portée constitutionnelle, et puis aussi, et c'est le deuxième volet des missions accessoires mais devenues principales, des nouvelles missions qui vous sont données par la révision constitutionnelle, je pense en particulier à l'article 61.1 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité qui permet en réalité, pour expliquer très rapidement à nos auditeurs, qui permet à un citoyen en cours d'un procès civil ou administratif d'invoquer devant ses juridictions la méconnaissance par une loi d'une liberté ou d'un droit garanti par la Constitution, donc par le bloc de constitutionnalité que vous évoquiez, et de poser une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, question qui est transmise soit par la Cour de Casse, soit par le Conseil d'État.
Alors c'est un vaste sujet, il y a de quoi nous occuper pendant un petit moment. Alors il est vrai qu'à partir donc de 1971 et surtout de 1974, le Conseil constitutionnel a été saisi de façon de plus en plus fréquente du contrôle de la constitutionnalité des lois et que c'est devenu son activité principale. Alors à partir de là, à partir de ces saisines, le Conseil constitutionnel a essayé de bâtir un système de hiérarchie des normes et de création de ce que la doctrine appelle le bloc de constitutionnalité. Donc, il a, au fur et à mesure qu'il a été saisi, il a dégagé de nombreux principes de portée constitutionnelle. Alors, tous ces principes ont une base textuelle. Je veux insister là-dessus. Le Conseil constitutionnel ne sort pas les principes de son chapeau comme des lapins blancs sortent du chapeau des prestidigitateurs. Ils ont tous une base textuelle. Le Conseil constitutionnel n'a pas institué un gouvernement des juges, comme parfois on le lit sous la plume de journalistes ou d'hommes politiques. Même les principes de normativité et de clarté de la loi qu'on trouve énoncés dans une décision d'avril 2005, époque à laquelle je n'appartenais pas au Conseil constitutionnel, peuvent être rattachés sans artifice à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale, il faut donc qu'elle soit claire et précise, lisible par l'ensemble des citoyens. Mais enfin, le principe de normativité et de clarté de la loi, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel s'en serve très souvent dans la vie. C'était une façon pour lui de taper du poing devant certaines dérives de ce que j'ai appelé le premier, la loi bavarde, lorsque j'étais vice-président du Conseil d'État, ce qui m'avait valu une algarade du président de l'Assemblée nationale de l'époque, procès d'ailleurs dans lequel tous les torts étaient de son côté, mais je n'en dirai pas davantage puisque ce président de l'Assemblée nationale est passé ad patres et qu'il ne peut plus me répondre. Voilà. Alors, je n'ai pas ici dressé la liste exhaustive de tous les principes qu'au fur et à mesure de ses décisions, le Conseil constitutionnel a dégagés. Je serai d'être un peu plus synthétique, quitte à être incomplet. Et d'abord, toutes les libertés individuelles. La sûreté personnelle, la liberté d'aller et venir, la liberté d'opinion, la liberté de religion, la liberté d'entreprendre, le droit de propriété, sont des libertés constitutionnelles. Alors, elles n'ont pas toutes le même degré de protection, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a les libertés collectives, la liberté d'association, bien sûr, avec la décision de 71. La liberté de communication, avec les nombreuses décisions rendues dans le domaine de la presse ou de la télévision et de la radio. La liberté syndicale, le droit de grève. Le principe d'égalité sous ses différents aspects, c'est un principe qui est proclamé depuis 89 et auquel les Français sont, vous savez, très attachés. Les grands principes du droit pénal, du droit répressif, la présomption d'innocence. Le principe de légalité des délits et des peines, il faut que les peines soient prévues par la loi et que les infractions soient également prévues par la loi avant que quelqu'un puisse être poursuivi d'abord et puni ensuite. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, les principes des droits de la défense et enfin des règles qui alors concernent moins les citoyens directement mais qui n'en sont pas moins essentielles, l'indivisibilité de la République, l'unicité du peuple français, la séparation des pouvoirs, la souveraineté nationale, la continuité des services publics qui va venir se heurter avec le droit de grève, la libre administration des collectivités territoriales qui d'ailleurs est dans la Constitution. Mais alors, il ne suffit pas de dégager ces droits et ces libertés, il faut parfois, et même souvent je dirais, les concilier. La difficulté du contrôle de conciliité des lois n'est pas tant de dégager ces grands principes, ni de voir comment ils s'appliquent dans la loi, dans quelle mesure le législateur les respecte, mais il vient de ce que ces principes peuvent entrer en collision, en quelque sorte, les uns avec les autres. Par exemple, le droit de grève, auquel je faisais allusion il y a un instant, peut venir entrer en conflit avec la continuité des services publics, auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle. Par conséquent, le juge va devoir déterminer quel est le point d'équilibre entre ces deux principes antinomiques. Et la difficulté va venir également de ce que le Conseil constitutionnel est conscient qu'il ne dispose pas, et il le répète d'ailleurs à longueur de décision, qu'il ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation que celui du Parlement. Il ne peut pas substituer son appréciation à celle du Parlement et qu'il doit donc laisser au législateur un certain pouvoir d'opportunité qui sera plus ou moins large selon la matière, parce qu'il y a des droits qui sont plus ou moins sacrés. Par exemple, le droit de propriété. Le droit de propriété, il a subi, depuis 1789, au fil des ans, des atteintes qui ont été plus ou moins graves. Et il est incontestable qu'aujourd'hui, le droit de propriété est beaucoup moins inviolable et sacré que ne l'énonçait la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Et d'ailleurs, très tôt, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a considéré que les atteintes aux droits de propriété devaient être appréciées compte tenu des atteintes que ce droit de propriété avait déjà subies au fil du temps. Et par exemple, les nationalisations autoritaires du fait de la loi d'un certain nombre de biens ou d'entreprises, cette nationalisation doit être appréciée et les conséquences qu'elle a doivent être appréciées en considération des atteintes qui lui ont déjà été portées. En revanche, la sûreté personnelle ou le principe de la présomption d'innocence sont des droits quasiment absolus. Toute atteinte à la présomption d'innocence, aujourd'hui, me paraît inconstitutionnelle. Je n'engage que moi en disant ça. Alors que toute atteinte par la loi au droit de propriété ne l'est pas forcément compte tenu de caractère somme toute relatif du droit de propriété. Par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel va moduler l'étendue de son contrôle en fonction de la conscience qu'il a de la consistance de ces différents droits. Il sera intraitable si la loi pénale est rétroactive. Il sera intraitable si la loi méconnaît les droits de la défense et prévoit par exemple que des peines peuvent être infligées à des personnes sans qu'elles aient la possibilité de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. En revanche, il acceptera davantage des atteintes au principe d'égalité en matière fiscale, pour évoquer notre affaire de la contribution carbone de tout à l'heure. Alors, il est difficile d'aller plus loin dans le cadre de cette émission, mais il faut ici retenir l'idée de la modulation du contrôle de constitutionnalité, qui est peut-être un peu subtil, qui peut peut-être dérouter un peu le lecteur des décisions du Conseil constitutionnel, mais en tout cas, qui est très bien compris des spécialistes de la matière, du moins, je l'espère, puisque je m'adresse à un professeur de droit public. Alors, on peut par exemple prendre deux exemples. L'appréciation par le Conseil constitutionnel de la sévérité des peines prévues par une loi. On a une disposition de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui parle de la nécessité des peines. La loi, dit l'article 8 de la DDH, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. C'est extrêmement exigeant à l'égard du législateur. Strictement nécessaire. Est-ce que le Conseil constitutionnel va appliquer à la lettre cet article 8 et vérifier que la nouvelle infraction créée par le législateur est punie par exemple de 2 mois de prison, que cette loi a énoncé une peine évidemment et strictement nécessaire? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire précisément parce qu'il considère qu'il doit laisser une certaine marge d'appréciation en opportunité au législateur. Mais il va tout de même faire un contrôle. Il va tout de même faire un contrôle qu'on pourrait appeler un contrôle de proportionnalité. Il va quand même regarder si la peine prévue n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits auxquels on prétend appliquer cette peine. Est-ce que le trouble apporté à l'ordre public et les dommages causés aux autres personnes est tel que cet agissement mérite une peine de 2 mois d'emprisonnement, ou est-ce que le législateur a créé là une disproportion entre les faits poursuivis, les faits reprochés, les faits incriminés et la peine qui s'y applique? Donc vous voyez qu'il a refusé, alors qu'il aurait pu, en se fondant sur une lecture absolument littérale
stricte
de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, vérifier si la peine est vraiment nécessaire. On considère que ce n'était pas raisonnable, mais il ne laisse pas quand même au législateur un total pouvoir d'appréciation. Il va faire ce contrôle que nous appelons le contrôle de proportionnalité. Au fond, c'est exactement le contrôle du caractère raisonnable qu'avait inventé la Cour suprême des États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Si le législateur n'a pas en quelque sorte déraisonné, si le législateur n'a pas déraillé, si j'ose dire, n'a pas dévié d'une saine conception de la peine par rapport aux infractions poursuivies.
C'est presque un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
c'est
du législateur.
C'est ce qui correspond à ce que, dans le droit administratif, on appelle le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. C'est peut-être un peu plus sévère que le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation du juge administratif. Tout cela est assez subtil. Je vais prendre un autre exemple. C'est celui de la confrontation d'un principe constitutionnel, par exemple le respect de la vie privée, avec un objectif de valeur constitutionnelle. Alors les objectifs de valeur constitutionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à manier. Il est certain que ce ne sont pas des règles. Ce ne sont pas des principes qui s'imposent au législateur. Ce sont des objectifs que le législateur peut légitimement poursuivre. Et donc, il est loisible au législateur, poursuivant un objectif de nature constitutionnelle, de venir porter, dans une certaine mesure, atteinte à une règle constitutionnelle. Je prends par exemple le respect de la vie privée et l'objectif constitutionnel de lutter contre la fraude fiscale. C'est un objectif incontestable. Tous les contribuables ont envie que la fraude fiscale soit réprimée parce que chaque contribuable considère que sa contribution est lourde et que par conséquent, les fraudeurs fiscaux doivent être poursuivis avec toute la rigueur possible. Et donc, le Conseil constitutionnel est amené à vérifier si, pour lutter contre la fraude fiscale, il est possible, et dans quelle mesure, de porter atteinte à la vie privée. Par exemple, le Conseil constitutionnel a admis que la recherche de renseignements par la voie d'écoute téléphonique n'était pas contraire au respect de la vie privée dès lors que ce contrôle, à des fins de lutte contre la fraude fiscale, ne portait pas sur le contenu des conversations échangées sur le téléphone, mais portait simplement sur l'identité des personnes qui échangeaient des informations. Et le Conseil constitutionnel a donc admis que, pour poursuivre cet objectif constitutionnel, lutter contre la fraude fiscale, le législateur pouvait porter quelques atteintes limitées au respect de la vie privée et à la liberté des communications téléphoniques. Par conséquent, vous voyez, le Conseil constitutionnel n'a pas une vision abstraite des droits et des libertés et des atteintes qui leur sont portées, mais essayer de replacer chacune des atteintes qui sont incriminées par les autorités qui saisissent le Conseil constitutionnel, à les replacer dans leur contexte concret. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas violation des principes constitutionnels dans la situation même qui est soumise au Conseil constitutionnel? Et pour reprendre l'exemple de la contribution carbone qui a l'air de vous passionner, je dirais que le Conseil constitutionnel s'est placé dans cette situation. Voilà une contribution à laquelle on soumet la totalité de la population, les foyers, les agriculteurs, les industriels, les commerçants, etc. Là-dedans, il y a un bon millier de très gros pollueurs qui sont exonérés de cette contribution sans qu'un motif d'intérêt général n'apparaisse évident, eh bien le Conseil constitutionnel considère qu'il y a eu une atteinte excessive au principe d'égalité devant les charges publiques, d'égalité devant l'impôt.
Monsieur le Président, je vous propose que nous fassions maintenant une courte pause et nous retrouvons nos auditeurs et nos auditrices dans un instant. Merci.
« 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin ». C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie. «
sur cette analyse justement que vous venez d'évoquer de ces droits et de ces principes et de leurs violations éventuelles au regard de valeurs supérieures telles que l'intérêt général. L'article 61.1 nouveau de la Constitution depuis la révision de juillet 2008 donne, si je puis dire, une nouvelle compétence au Conseil constitutionnel qui est celle que nous avons vue, donc évoquée à l'instant, d'avoir devant lui l'évocation d'une question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'un citoyen considérerait, en cours de procès civil ou administratif et pénal d'ailleurs, qu'un droit ou qu'un principe posé à la Constitution est méconnu par la loi. Comment va se passer, alors on anticipe un peu puisque les premiers décrets viennent d'être pris.
La loi organique est en vigueur.
Voilà, la loi organique, elle est en vigueur.
Et le règlement intérieur du Conseil constitutionnel est également pris. Nous sommes totalement prêts à faire face à ces nouvelles responsabilités.
Et la disposition s'applique depuis le 1er mars 2010. Alors, sur quelle modalité, justement, de raisonnement va-t-on se placer ? Parce que la loi organique et le règlement restent quand même relativement imprécis sur cette question. On a toutes les procédures exposées devant le Conseil d'État, devant la Cour d'assises, la Cour de cassation. Mais sur la modalité fine d'analyse, justement, à titre individuel pour le citoyen, de ses droits et de ses principes. Ça va s'appuyer sur les méthodes classiques que vous venez de rappeler ou vous allez être obligé de conduire un nouveau mode de contrôle ?
Écoutez, il est difficile de vous répondre sur ce point. D'abord parce que je n'engage que moi-même et deuxièmement parce que le Conseil constitutionnel n'a encore été saisi, comme vous le savez, d'aucune question prioritaire de constitutionnalité. Mais ma première réflexion que je vous livre est qu'il n'y a aucune espèce de raison que nous changions de méthode d'examen et de méthode de confrontation de la règle législative incriminée avec les principes constitutionnels qui ont été dégagés par le Conseil constitutionnel. Je pense que le contrôle sera d'une certaine façon plus facile. C'est-à-dire d'abord que nous allons être saisis d'une question très précise. Nous n'allons pas être saisis d'une loi de 50 articles par des saisissants qui parfois ne nous saisissent d'aucun motif. Il y a peu de temps, le Conseil constitutionnel, je fais une petite parenthèse là, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une loi portant sur l'administration pénitentiaire et sur les nouveaux droits reconnus aux détenus. L'opposition a saisi le Conseil constitutionnel de cette loi qui est assez longue, assez compliquée et assez novatrice sans invoquer le moindre grief. Et par conséquent, le Conseil constitutionnel a dû aller à la pêche, entre guillemets, et rechercher si, sur tel ou tel point, il y avait une méconnaissance de la Constitution. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a écarté cette requête. Là, nous allons être saisis d'un grief très précis contre une disposition d'une loi et par une argumentation motivée provenant soit du Conseil d'État, soit de la Cour de cassation. C'est-à-dire que la question va être focalisée. La deuxième raison pour laquelle l'examen devrait être plus facile, c'est que le Conseil constitutionnel verra tout de suite les conditions d'application concrète de la loi. Il va être saisi d'un cas véritable. Il ne va pas être saisi d'une disposition in abstracto, d'une disposition qui n'a jamais, par hypothèse, été appliquée puisque la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Il va être saisi de l'application concrète d'une loi. Voilà un locataire qui est en différend avec le propriétaire de son logement, je prends un exemple tout à fait au hasard, et qui invoque l'inconstitutionnalité de telle ou telle disposition législative régissant son bail. Donc le Conseil constitutionnel va être saisi d'une situation véritablement concrète où il va pouvoir apprécier dans quelle mesure les droits de chacune des deux parties à ce contrat de bail sont traités et si, d'aventure, le droit individuel de l'une des parties est méconnu. Je crois donc, pour cette double raison, le fait que nous avons saisi d'une question précise et le fait que nous allons être saisis d'une question concrète dans un litige concret qui oppose deux personnes, l'examen sera plutôt plus facile que dans le cadre de l'examen abstrait aujourd'hui de lois parfois longues et complexes qui sont soumises au Conseil constitutionnel. Voilà, donc quant au principe que nous allons appliquer, je ne vois pas de raison particulière de changer la jurisprudence ou de l'adapter à la situation. La seule chose qu'il faille dire ici, c'est que dans le cadre de l'article 61.1, le Conseil constitutionnel ne peut être saisie que de dispositions législatives dont il est prétendu qu'elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Donc toutes les règles que nous avons pu dégager à l'occasion de la procédure législative, à l'occasion de l'examen préalable par le Conseil d'État des projets de loi par rapport au principe de l'organisation de l'État, tous ces principes-là seront inopérants, c'est-à-dire ne pourront pas être employés, et s'ils sont employés, ne pourront pas aboutir à la censure. Nous serons en face des droits et des libertés que la Constitution garantit. Mais enfin, il y a là déjà beaucoup de choses pour les partis et pour leurs conseils. Et je crois savoir que les avocats se préparent, et d'ailleurs beaucoup d'entre eux ont déjà saisi les juridictions de première instance ou d'appel de questions prioritaires de constitutionnalité, et que le Conseil d'État doit avoir déjà une cinquantaine de dossiers sur ce sujet, et la Cour de cassation probablement encore un peu plus. Donc nous allons les voir arriver dans quelques jours.
Sachant que cette disposition va relativement loin, puisque l'article 61.1 est accompagné d'un nouvel article 62 qui dit clairement qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur ce fondement est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, sachant que c'est le Conseil constitutionnel qui détermine les conditions et les limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel prises en la matière ne seront bien sûr insusceptibles d'aucun recours. C'est quand même un pouvoir fort qui est donné ici au Conseil constitutionnel par rapport au contrôle de constitutionnalité de la loi, je dirais.
Oui, enfin, je crois qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition n'est pas conforme à la Constitution, la moindre des choses, c'est qu'elle ne continue pas de s'appliquer. Il ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Et son contraire.
Alors, assez sagement, le constituant a quand même laissé au Conseil constitutionnel une certaine marge d'appréciation des effets de l'inconstitutionnalité qu'il déclarerait dans le cadre de l'article 61.1 nouveau de la Constitution. Le Conseil constitutionnel pourra dans certains cas différer les effets de l'abrogation de la loi. Il a anticipé cette réforme dans la décision OGM, vous le savez, où pour éviter que notre pays soit mis dans une situation très difficile vis-à-vis des instances européennes pour une question finalement vénielle, le Conseil constitutionnel a préféré différer les effets de sa décision pour permettre au gouvernement français de raccommoder, si j'ose dire, la porcelaine avec les institutions européennes dans l'intervalle et éviter des amendes qui auraient été finalement assez inéquitables. Elles n'auraient pas été injustes, elles auraient été conformes au droit, mais elles auraient été un peu inéquitables. Alors nous pourrons faire la même chose. Imaginez par exemple que le Conseil constitutionnel considère que le droit de propriété, par exemple, est atteint à travers des dispositions de nature fiscale. Et imaginez que nous soyons amenés à considérer qu'est inconstitutionnelle telle ou telle disposition du Code général des impôts, qui est la clé de l'assiette de la mise en recouvrement d'une recette substantielle de l'État. Par exemple, les taxes sur le chiffre d'affaires, taxes sur la valeur ajoutée. Je crois qu'il serait peu responsable de la part du Conseil constitutionnel, encore une fois, je n'engage que moi, que de décider que la disposition législative se trouve abrogée à compter de la date à laquelle il prononce sa décision et que toutes les impositions que les autorités fiscales de notre pays s'apprêtaient à mettre en œuvre dans les semaines ou dans les mois à venir, se trouve ainsi privé de base légale. Je crois que ce serait tout à fait inconséquent et qu'il y aurait lieu dans ce cas-là de différer les effets de l'abrogation afin que le gouvernement et le Parlement puissent chacun, dans le cadre de ses compétences et de ses responsabilités, essayer de combler le trou créé par la décision du Conseil constitutionnel. Étant entendu cependant que pour le bénéficiaire de la décision devrait produire tous ses effets. Parce qu'on ne peut pas imaginer l'hypothèse dans le cadre du recours pour excès de pouvoir où la légalité d'une décision s'apprécie par rapport à la date de la loi en vigueur à la date à laquelle la décision a été prise. Nous disions que cette loi était inconstitutionnelle et je l'abroge à partir du mois prochain. Le requérant qui a obtenu cette satisfaction verrait ensuite le juge administratif. Je veux dire, à la date à laquelle la décision a été prise, la loi était en vigueur puisqu'elle n'est abrogée qu'à compter d'une date à venir. Par conséquent, la décision qui a été prise à votre égard est légale. Je crois que dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel devrait, s'agissant des intérêts même de celui qui a été à l'origine de la censure, que, en ce qui le concerne, la loi soit privée rétroactivement des faits. Il faudra que le Conseil constitutionnel, à mon sens, encore une fois, je ne parle que du futur et je n'engage que moi, manie avec une certaine dextérité mais une certaine prudence les effets de sa décision à l'égard de la date à laquelle la censure qu'il prononcera portera ses effets. Il faudra faire très attention à cela.
Nous avons évoqué déjà un petit peu la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 à travers l'évocation du point qui concerne plus particulièrement le Conseil constitutionnel, à savoir la question prioritaire de constitutionnalité. Est-ce que nous pouvons évoquer quelques généralités pour finir de cette révision ?
Sur la révision, oui. Oui,
c'est soit on regarde la loi.
C'est une révision importante hein, quand on s'amuse, si j'ose dire.
C'était la combientième depuis 1958, c'est la combientième de révision ?
Ah, écoutez, vous me posez une colle.
24 22 24,
oui, voilà, oui,
hein, on est à 24, je pense, 23, 24.
Alors, il y a eu des réformettes, il y a eu des réformes purement techniques et des réformes substantielles. Celle-là est probablement la plus substantielle de toutes celles qui sont intervenues depuis 1958. Ce n'est pas la plus importante. L'élection du président de la République au suffrage universel a eu beaucoup plus de conséquences.
24.
Mais c'est la 24e. Il y a eu, sur le régime des sessions du Parlement, ou sur tel ou tel autre point, des réformes tout à fait marginales dont on peut ne pas parler. Mais cette révision de la Constitution, je crois que si on essaie de regrouper un peu les thèmes qu'elle a abordés, elle tend, d'une part, à revaloriser le Parlement, à donner des nouveaux droits pour les citoyens. Nous en avons évoqué un, mais on peut revenir sur ce point. Et elle crée un relatif encadrement du président de la République. Alors, la revalorisation du Parlement se trouve dans un nombre de points. D'abord, on trouve des mesures qui tendent à améliorer la qualité des textes soumis au Parlement. C'est tout d'abord, nous en parlions tout à l'heure, la constitutionnalisation implicite de l'étude d'impact. Je dis que c'est une constitutionnalisation implicite parce que l'article 39 révisé de la Constitution n'évoque pas ces mots-là. Mais cet article 39 nous dit que la présentation des projets de loi répond aux conditions fixées par une loi organique et que la loi organique, avec beaucoup de minutie et d'ambition,
aborde
un peu excessive à mon avis, mais enfin je n'engage encore que mon disant, à organiser cette étude d'impact. Avec ces conséquences, que le Conseil constitutionnel peut être saisi de l'insuffisance ou de l'absence d'étude d'impact. C'est l'alinéa qui suit de l'article 39. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues, c'est-à-dire si l'étude d'impact est absente ou insuffisante, et en cas de désaccord entre la conférence des présidents et le gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le premier ministre, peu probable que ce soit le premier ministre d'ailleurs, le président de l'assemblée intéressée peut saisir le conseil général qui s'est tenu dans un délai de 8 jours, donc une sorte de procédure préjudicielle dans un bref délai qui est organisé pour vérifier si l'étude d'impact existe et en l'affirmative, si elle est complète. Voilà, une sorte de référé. Le deuxième point a pour objet d'améliorer la qualité des textes, c'est la possibilité pour le président de la première assemblée saisie de saisir le Conseil d'État des propositions de loi, sauf si l'auteur de la proposition de loi s'y oppose. Ça, c'est une innovation considérable. À titre personnel, je ne peux pas dire que je sois un supporter inconditionnel de cette mesure, parce que je crois que le Conseil d'État, je me place du point de vue du Conseil d'État, qui n'a rien à gagner à être confronté directement au Parlement. Enfin bref, le président de l'Assemblée peut demander au Conseil d'État d'examiner une proposition de loi, si cette proposition de loi est importante. Et notamment, il faut bien voir qu'il est arrivé que le gouvernement, de façon non innocente, suscite une proposition de loi de la part d'un de ses amis politiques pour éviter de déposer un projet de loi soumis au Conseil d'État. Le pacte civil de solidarité a connu ce sort. Il n'est pas exclu que la prohibition possible du port du voile islamique ne connaisse une semblable procédure, sauf si le président de l'Assemblée saisissait le Conseil d'État de la proposition de loi, mais je doute fort qu'il s'y livre. Enfin, ça le regarde et je n'insiste pas là-dessus. Il y a enfin la garantie faite au Parlement de délai d'examen suffisant. C'est l'article 44, alinéa 3, qui donne à la première assemblée saisie, je crois, 6 semaines entre la date du dépôt et la date de l'examen pour permettre aux commissions parlementaires de travailler convenablement. Également, parmi les mesures tendant à la revalorisation du Parlement, on peut parler des mesures qui tentent à améliorer la qualité des textes lors des discussions. Alors, la disposition qui autorise le Parlement à voter des résolutions tend à cela. C'est une idée, je crois, qu'on doit à mon excellent ami Pierre Mazeaud, qui, pour éviter les lois non normatives, les lois déclaratives, les lois bavardes, a suggéré à la commission Balladur de créer pour le Parlement, enfin pour les chambres du Parlement, de voter des résolutions. C'est une sorte d'exutoire qui leur est offert pour s'opposer précisément à ces lois non normatives, ces lois purement déclaratives. On peut également citer, parmi les mesures qui tentent à améliorer la qualité des textes, le respect ou le meilleur respect de la répartition des compétences. C'est-à-dire que l'irrecevabilité de l'article 41, c'est-à-dire l'irrecevabilité d'un amendement ou d'une proposition de loi liée à son caractère réglementaire, peut être opposée non seulement par le Premier ministre, mais également par les présidents des assemblées. Je suis un peu sceptique là
qui
aussi.
Qui ont aussi 8 jours, enfin qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel.
Je suis un peu sceptique sur l'utilisation pratique de l'article 41 qui, vous le savez, a été très très peu utilisé au fil du temps.
Il est entré en vigueur, hein, oui. Et
il est toujours en vigueur, mais il est toujours en vigueur et toujours inappliqué.
Oui, c'est ça. Et dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle de juillet 2008, il est entré en vigueur le 1er mars 2009, ouais, et toujours non appliqué.
Ouais. On l'a toujours pas vu l'ombre d'une saisine. Enfin, il y a des mesures qui sont destinées à améliorer l'exercice du droit d'amendement. D'abord, il y a 8 commissions permanentes au lieu de 6. Par conséquent, on peut penser que les commissions étant plus nombreuses et comportant un nombre moins important de membres pourront travailler mieux. Le projet de texte devant l'Assemblée plénière sera celui qui sort des travaux de la commission et non plus celui du projet de loi. Ça, c'est une innovation considérable, c'est une augmentation considérable des pouvoirs des assemblées parlementaires. Enfin, la possibilité d'admettre en première lecture des amendements ayant un lien, même indirect, avec le texte en discussion. Là, il s'agissait pour les constituants de lutter contre la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui censurait les amendements n'ayant pas de lien, même indirect, avec les dispositions en cours de discussion. On peut considérer que cette modification tend à revaloriser le Parlement puisqu'il étend à nouveau le droit d'amendement. Alors, il y a des nouveaux droits pour les citoyens. C'est la deuxième facette de cette révision de la Constitution. C'est l'instauration d'un référendum législatif d'initiative partagée entre les parlementaires et, on pourrait dire, l'opinion publique, les citoyens. C'est l'article 11 nouveau qui a été quand même profondément remanié, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il est permis non seulement au gouvernement, mais aux parlementaires et à une partie des citoyens de faire une proposition dans le domaine de l'article 11, c'est-à-dire dans le domaine de l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale
ou environnementale
de nation et aux services publics qui y concourent. Un référendum donc portant sur l'un de ces objets peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. C'est une sorte de démocratisation de l'usage du référendum. Le Conseil constitutionnel sera d'ailleurs saisi de la vérification que les conditions posées par cet article 11 sont bien respectées par les propositions de référendum. On peut également souligner ici l'ouverture du Conseil économique et social aux questions environnementales. Le Conseil économique et social change de nom.
Il change de nom.
Il change de dénomination. Il devient Conseil économique, social et environnemental. On peut également souligner qu'il pourrait être saisi de pétitions. C'est encore la volonté de donner au corps électoral, à la société civile, comme l'on dit, des moyens d'expression devant le Conseil économique, social et environnemental. Mais enfin, le rôle, sans vouloir réduire le rôle du Conseil économique et social et demain environnemental, demain, parce que la loi organique n'a pas encore été prise, des pétitions devant ce Conseil ne prospéreront pas forcément devant les pouvoirs publics. Il y a aussi la création du défenseur des droits.
Des droits.
Le défenseur des droits, qui va probablement se substituer à quelques-unes des autorités existantes,
administratives indépendantes,
statut constitutionnel, qui est chargé de veiller au respect des droits et libertés par les services publics. C'est une large mission. On ne sait pas très bien la place qu'il prendra à côté du juge, parce qu'il n'a, et heureusement d'ailleurs, sinon la cacophonie serait organisée, il n'a bien sûr aucun pouvoir juridictionnel. C'est un super médiateur de la République.
Équivalent à l'ombudsman des
pays
du Nord.
Mais vous comprenez, l'ombudsman suédois, il a une place importante parce que la juridiction administrative en Suède occupe un rôle extrêmement modeste. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître toutes les juridictions administratives étrangères, européennes en tout cas, car il y en a partout, sauf en Grande-Bretagne et en Irlande. Et par parenthèse, quand on parle de l'exception française, parce qu'il y a une dualité d'ordre de juridiction, cela me fait pousser des hurlements de rire, car dans tous les États de l'Europe, il existe une juridiction administrative, sauf en Grande-Bretagne et en Irlande. Bon, cette parenthèse fermée, en Suède, la juridiction administrative a une place bien moindre qu'en France et l'ombudsman a pu trouver assez naturellement une place assez importante, alors que le médiateur, il est nécessairement confiné à un rôle gracieux et non point juridictionnel. Alors on verra comment le défenseur des droits prendra sa place. Et puis alors il y a enfin, en faveur des citoyens, plus exactement en faveur ici des justiciables, l'article 61 dont nous avons parlé il y a quelques instants, mais qui est une révision très importante de la Constitution. Il faut savoir tout de même que ce contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception a été réclamé à corps et à cri par certains depuis longtemps, que deux projets de révision de la Constitution avaient été conçus et que les autorités politiques les avaient abandonnés en cours de route. Celui-là est parvenu à son terme. Et puis enfin, le troisième aspect de la révision de la Constitution de 2008, oui, c'est un relatif encadrement du président de la République, l'encadrement de son pouvoir de nommer à certains emplois avec l'avis des commissions et la possibilité à la majorité des 3/5 de faire obstacle à ces nominations. Je crois que le cas sera un peu théorique. En tout cas, le président ne se mettra pas en situation de se faire censurer sur ce point. Le contrôle de la mise en œuvre de l'article 16, là aussi espérons que nous ne serons jamais en
confrontés à une situation
telle que ces pouvoirs d'urgence soient à nouveau mis en œuvre comme ils l'ont été en avril 1961. Après 30 jours de pouvoir de l'article 16, le Conseil constitutionnel pourra être saisi par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale pour vérifier en quelque sorte qu'il est justifié de maintenir ses pouvoirs d'urgence. Et après 60 jours, donc après 2 mois, le Conseil constitutionnel pourrait se saisir d'office de la question de savoir si on peut maintenir encore en vigueur ses pouvoirs exceptionnels. Il y a aussi la limitation à 2 du nombre de ses mandats. le président Sarkozy avait, dans sa campagne électorale, promis qu'il ferait usage de son pouvoir de proposition en matière de révision de la Constitution. En ce sens, il a tenu parole et on a limité à 2 le nombre des mandats du président de la République. Et enfin, à la demande du président de la République lui-même, on a limité l'exercice de ce pouvoir traditionnel, de ce pouvoir régalien du droit de grâce à la grâce individuelle et on a supprimé la notion même de grâce collective. Voilà. Voilà, alors cette réforme complexe, vous voyez, intéresse aussi le Conseil constitutionnel, au premier chef avec l'article 61, mais aussi à l'occasion d'un certain nombre de dispositions autres qui touchent notamment aux relations entre les pouvoirs publics et à la place du citoyen dans le processus référendaire.
Alors, juste un mot de fin. Cette Constitution, donc, vous êtes le garant, vous, comme membre du Conseil constitutionnel, et les autres membres, vous participez.
Nous sommes les gardiens, nous ne sommes pas les seuls. Le président de la République, au premier chef, est le gardien de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a incontestablement son
rôle de gardien de cette Constitution. Cette Constitution, c'est toujours celle de la Ve République ou ce pourrait être celle d'une nouvelle République ?
Oh, c'est celle de la Ve République, les traits essentiels de la Ve République. Du modèle 1958-1962, car pour moi, la révision de 62 n'a fait que tirer les conséquences de la Constitution de 58 elle-même. Le mode d'élection du président de la République après élection du général de Gaulle, c'est bien l'élection au suffrage universel. Donc le modèle 58-62 me semble tout à fait respecté.
Merci Renaud Denoy de Saint-Marc d'avoir été notre invité au cours de ces 2 rendez-vous sur le Conseil constitutionnel. J'invite nos auditeurs et auditrices à nous retrouver sur la médiathèque de Canal Académie. Merci et à bientôt pour un autre thème. Au revoir.
Au revoir, chère madame.